Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le salon Vinexpo Wine Paris a ouvert ses portes aujourd'hui dans la capitale française. C'est la réunion d'un salon du vin bordelais et d'un salon parisien. Mouvement de concentration donc, dans un milieu où les grands groupes pèsent de plus en plus lourd et dans un marché de plus en plus mondialisé. Le moindre soubresaut de ce marché a des conséquences importantes. En France, où le vin représente le deuxième secteur d'exportation et où plus d'un demi-million d'emplois en dépendent, entre les taxes et les menaces de taxes américaines, les droits de douane et la baisse d'activité en Chine, ou encore le Brexit, la place du vin français est-elle menacée dans le monde? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Hervé Remeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de marketing et membre de l'équipe de recherche Food, Wine and Hospitality de Kedge Business School, dont vous êtes également directeur de l'exécutive MBA. Et Bernard Farge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la CNAOC, c'est la Confédération Nationale des Producteurs de Vins et Eaux de Vie à Appellation d'Origine Contrôlée. C'est le grand sujet sur des relations commerciales entre la France et les États-Unis. Donald Trump menace de surtaxer les vins français si la France met en place sa taxe sur les géants du numérique. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude, Bernard Farge?
Ah, c'est un motif d'inquiétude, bien sûr, mais nous sommes déjà, dans plus que l'inquiétude, nous sommes déjà dans une vraie difficulté depuis le 18 octobre, date à laquelle les États-Unis ont taxé à 25% les vins français qui rentraient sur le territoire américain.
En raison de... Il y a une taxe américaine sur les vins français en raison des subventions européennes à Airbus. C'est bien ça. Hein. C'est apparemment, a priori, deux produits qui ont assez peu de rapport. Et pourtant, les viticulteurs français se retrouvent au milieu de ce conflit commercial qui dure depuis des années.
C'est ça. Ce conflit commercial qui oppose les avionneurs, hein, Boeing et Airbus, a conduit à ce que l'OMC autorise les Américains à taxer, en mesure de rétorsion, des produits européens. Et parmi les produits européens, les vins français. Donc nous sommes victimes collatérales d'un sujet qui n'aurait pas dû être le nôtre. Et une augmentation de 25% des vins français rentrant sur les territoires américains, c'est évidemment beaucoup moins d'exportation de vins français.
Hervé Remeau, oui, c'est un motif d'inquiétude, ces taxes américaines notamment.
Alors oui, en effet, l'effet a été immédiat, si je puis dire, puisque dès la mise en place de ces taxes, les importations de vins français aux États-Unis ont baissé en valeur quasiment de moitié. Donc ça veut dire qu'en novembre 2019, effectivement, on est passé de 130 millions de dollars américains d'importation à peu près 57 millions. Et d'une manière ou d'une autre, cela s'est poursuivi ensuite au mois de décembre avec à peu près 55 millions de dollars d'importation. Donc l'effet a été immédiat.
Ça veut dire que s'il y a une taxe supplémentaire qui est appliquée, ça pourrait baisser, mais vraiment de manière drastique, alors que c'est déjà le cas, c'est ce que vous nous dites.
Alors, oui, et ce pour plusieurs raisons, mais peut-être qu'on y reviendra après, mais d'une manière ou d'une autre, passer de 25% à 100% de taxes sur les vins français exportés, vins européens ou vins français exportés.
Parce que la menace, c'est ça. Pour l'instant, c'est 25% et ça pourrait passer à 100%.
Alors, effectivement, ça peut passer à 100%, mais d'une manière ou d'une autre, il faut savoir que ce qu'on appelle le sweet spot des vins consommés aux États-Unis, globalement, c'est à peu près entre 8 et 15 dollars. Donc ça veut dire qu'une augmentation des tarifs douaniers de 25 à 100%, déjà à 25%, ça va changer effectivement un peu la donne, mais globalement, ça va faire que la plupart, la grosse majorité des vins français vont sortir de ce sweet spot. Donc ça, c'est quand même effectivement quelque chose d'assez dramatique pour l'ensemble des producteurs de vins français.
Sweet spot, c'est, vous allez nous expliquer, c'est là où sont, la majorité des vins vendus sont dans ces tarifs-là.
Oui, tout à fait. Là où la majorité effectivement des vins étrangers et vins français sont achetés effectivement aux États-Unis.
Bernard Farge, vous le disiez, est-ce que vous avez, vous, viticulteur ou que vous représentez, le sentiment d'être pris dans un jeu qui vous dépasse complètement? Est-ce que vous êtes une victime collatérale de quelque chose qui ne vous concerne pas?
Oui, nous sommes victimes collatérales et ce n'est pas la première fois. Déjà, il y a quelques années, lorsque les Européens étaient dans un conflit sur les panneaux photovoltaïques, ce sont les vins européens qui ont été les premières cibles de l'industrie chinoise et du pouvoir politique chinois. Donc, à chaque fois qu'il y a une difficulté commerciale dans une guerre commerciale entre un pays et l'Europe, ou la France, et particulièrement l'Europe...
C'est vous qui êtes en première ligne.
Nous sommes en première ligne pour la France. Nous aimerions avoir une même autorité, une même audience du côté de nos gouvernants français, de nos divers gouvernements français successifs, les pays étrangers, les continents étrangers, étrangers à l'Europe, ciblent la France. Et quand ils veulent cibler la France, ciblent les vins français. Nous aimerions être aussi bien observés et largement soutenus par le gouvernement français parce que c'est une filière qui fait du chiffre d'affaires, qui génère 12 milliards d'euros dans la balance commerciale en termes positifs,
en solde positif.
Et nous sommes les secondes derrière l'aéronautique, encore une fois, derrière l'aéronautique ou à côté de l'aéronautique. C'est plus de 550 000 emplois non délocalisables. Donc c'est une filière qui produit cette richesse chaque année et ce n'est pas par simple hasard que cette richesse est produite, c'est par l'investissement de toutes les entreprises et de tous les acteurs de cette filière.
Hervé Remeau, c'est le vin en France, on pense à la France dans le commerce international, on pense immédiatement au vin, ça tient du symbole en fait.
C'est culturel, effectivement, et je pense que pour l'administration américaine, c'est aussi prendre en considération le fait que les vins français sont ont de plus en plus de succès aux États-Unis. Les exportations ont augmenté à peu près de 30% en l'espace de 5 ans aux États-Unis. Au niveau de certains produits comme les vins rosés, par exemple, la France est effectivement leader aux États-Unis. Et donc, c'est une manière aussi de pouvoir rendre l'appareil et de toucher là où ça peut faire très mal, effectivement, à la fois d'un point de vue culturel, mais aussi d'un point de vue économique. Tout à fait.
Le Brexit, les Britanniques sont historiquement amateurs de vin, notamment du Sud-Ouest. Et c'est même largement grâce à eux que le Bordelais s'est développé historiquement. Là aussi, Bernard Farge, est-ce que c'est un motif d'inquiétude ce qui se passe actuellement entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne ?
C'est une inquiétude depuis 4 ans et depuis que les discussions sur le Brexit existent. Inquiétude sur l'issue. Nous sommes toujours aujourd'hui dans l'inquiétude maintenant de l'application du Brexit. Nous avons encore quelques mois devant nous. Nous ne savons pas comment seront organisées les choses en termes de tarifs douaniers. Nous ne savons pas comment aboutiront les choses en termes de flux logistiques. Donc l'incertitude, elle est totale. Pour autant, même si depuis 4 ans nous sommes dans l'incertitude, depuis 4 ans, le commerce s'est maintenu, voire s'est développé à certains moments avec le Royaume-Uni.
Oui, Hervé Remeau, c'est un nuage supplémentaire, le Brexit ?
Bien sûr. Alors certes, c'est peut-être pas forcément justement le premier marché d'exportation, d'une manière ou d'une autre.
Mais là aussi, c'est symbolique. Hein. Voilà, le vignoble bordelais s'est beaucoup développé grâce à la Grande-Bretagne, historiquement,
oui, mais
depuis plusieurs centaines d'années. Quoi.
Certes, mais il y a eu forcément des hauts et des bas. Et c'est vrai que si on va plutôt vers un bas, c'est pas pour autant que d'une manière ou d'une autre, ça va pas remonter. C'est plus, j'allais dire, peut-être la préparation qu'il y a à avoir au niveau de l'ensemble des changements douaniers qui vont s'opérer, qui pose un gros casse-tête aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre, je pense que les Anglais sont très friands des vins français, y compris des vins de Bordeaux, et que derrière, ils ne vont pas forcément changer leur mode de consommation, parce qu'on n'est pas dans un doublement des prix avec une surtaxe énorme.
Pour l'instant, en tout cas. La Chine, le vin français y est surtaxé, la croissance du pays n'est pas aussi forte que les années précédentes, et les échanges sont ralentis pour l'instant par la propagation du coronavirus. Est-ce que là aussi, sur de nouveaux pays qui consomment davantage, Bernard Farge, là aussi, est-ce qu'il y a une inquiétude ?
C'est plus qu'une inquiétude. Là aussi, c'est un constat sur nos chiffres qui sont en recul depuis notamment depuis début 2019. Après une décennie de forte croissance, notamment pour certaines régions viticoles françaises et le Bordelais en particulier, et depuis début 2019, date à laquelle nos amis australiens sont dorénavant à 0% de douane, taxe douanière sur l'entrée en Chine. De la même façon, les Chiliens sont aussi sans droit de douane à l'entrée, les Argentins pareil. Donc ces pays, aujourd'hui, progressent en Chine, alors que les vins européens, qui ont toujours des droits de douane importants, et il y a un différentiel de 20% environ de droits de douane, donc les Espagnols sont remplacés par les Chiliens, et les vins bordelais sont remplacés par les vins australiens.
Pourquoi ce différentiel, on l'explique à Pékin, Hervé Remeau ?
Différentiel de ?
De taxation entre des vins australiens ou chiliens et des vins européens ?
Il y a effectivement des enjeux qui sont beaucoup plus larges. L'Australie a depuis toujours été un fournisseur indispensable à la Chine de matières premières, ce qui leur a permis aussi, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir générer un free trade agreement et donc de pouvoir insérer un grand nombre de produits dans cet accord. C'est ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, effectivement, il y a ce différentiel et la difficulté pour nous à être compétitif sur ces marchés-là. Or, pas sur les vins haut de gamme, parce que la France a toujours effectivement sa place, d'une manière ou d'une autre. Et les vins australiens souffrent d'une image un peu d'entrée de gamme. J'exagère peut-être un petit peu en disant ça, mais pas tant. Et donc, on a toujours cet avantage concurrentiel, j'allais dire.
Oui, Bernard Farge, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus ?
Pour le Chili, par exemple, nous savons que dans l'accord entre Chili et Chine, les Chinois avaient besoin de beaucoup de cuivre. Les Chiliens produisent beaucoup de cuivre. Mm-hmm. Donc, les Chiliens exportent le cuivre, mais avaient besoin d'exporter du vin. Donc, les taxes ont été mises à zéro pour le cuivre et pour le vin.
Est-ce que tous ces nuages, États-Unis, Chine, Brexit, Hervé
Hong Kong,
Hong Kong, oui, bah évidemment. Est-ce que tous ces nuages, ça apporte une vraie inquiétude sur l'ensemble du marché?
Qu'est-ce que vous voulez dire par l'ensemble
du
marché?
Est-ce que ça vient tout ça vient tout en même temps? Est-ce que c'est inquiétant globalement, pas juste sur un seul marché?
Non, effectivement, c'est la concomitance de l'ensemble de ces éléments aujourd'hui qui sont quand même assez difficiles à gérer, à anticiper. Et si on rajoute là-dessus le coronavirus, qui bloque aujourd'hui complètement, aujourd'hui il n'y a plus rien qui bouge. En Chine, effectivement, les livraisons ne se font pas et les livraisons de vin ne se font encore moins. L'ensemble des distributeurs sur zone ne travaillent pas, ils sont confinés chez eux. Donc c'est vrai que vous faites ça pendant plusieurs mois, forcément, et que vous rajoutez effectivement l'inquiétude du Brexit plus les États-Unis, oui, bien sûr, c'est extrêmement compliqué pour la filière aujourd'hui.
Hervé Remot, est-ce qu'on parle des vins de consommation, je dirais pas courante, parce que ça reste un produit de luxe, pratiquement à l'étranger, le vin français. Est-ce qu'il y a quand même une différence entre, par exemple, le champagne et les autres vins? Est-ce que c'est des marchés qui évoluent un peu différemment est-ce que le champagne est autant soumis à ces aléas?
Les vins français, et parmi les 12 milliards d'exportations, il n'y a pas que le luxe. Mm-hmm. Il y a certes le cognac et le champagne qui représentent une belle part, mais les vins du Languedoc, les vins de Bordeaux, de cœur de gamme et d'entrée de gamme, sont très présents sur l'exportation, puisque c'est 50% de chacune de ces régions qui sont exportées. Donc le champagne, lui, a un fonctionnement très particulier de commerce, avec une forte présence au Royaume-Uni, une forte présence aux États-Unis. Mais aux États-Unis, le champagne n'est pas touché par la taxe aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de ralentissement aux États-Unis pour le champagne. Les États-Unis sont beaucoup moins présents en Chine. Pardon, le champagne est beaucoup moins présent en Chine. Les marchés principaux de champagne sont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon.
Lorsqu'on voyage à l'étranger, on s'aperçoit vraiment que le vin français ou même européen, certains vins italiens et espagnols aussi, par rapport à la production d'autres pays, les vins du Nouveau Monde, comme on dit, je ne sais pas si vous allez me contredire probablement, c'est vraiment un produit haut de gamme, sinon un produit de luxe. Est-ce qu'il y a un petit problème de positionnement? Est-ce qu'il faut aller plus largement sur le marché, Hervé Remot?
Vous préférez être positionné bas de gamme ou haut de gamme?
J'ai pas dit bas de gamme, j'ai dit est-ce qu'il y a...
Vous préférez être positionné entrée de gamme? Vous préférez que RFI soit positionné entrée de gamme ou haut de gamme?
Le vin français, en tout cas, il est positionné comme ça.
Donc vous avez la réponse. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir un positionnement n'empêche pas derrière, j'allais dire, enfin, avoir une locomotive plutôt, j'allais dire, haut de gamme, milieu haut de gamme, n'empêche pas d'avoir derrière des wagons qui soient aussi entrée de gamme. Mmh. Donc il vaut mieux être tiré par une locomotive, j'allais dire, plutôt premium, plutôt qu'une locomotive à charbon.
Bernard Farge, là-dessus?
Nous avons à l'exportation un positionnement qui peut-être est faible sur l'entrée de gamme. Mais l'entrée de gamme, c'est le marché mondial et c'est peu de valorisation pour les producteurs, peu de valorisation pour les distributeurs, et c'est la raison pour laquelle une grande partie de ce marché a été abandonnée par les Français. Alors peut-être qu'on peut trouver les moyens de regagner quelque part de marché sur ce marché-là, mais ce n'est pas notre guerre, et notre guerre est vraiment de positionner nos vins sur le cœur et haut de gamme.
Oui, parce que le système français des terroirs, des AOC, on peut se demander s'il est toujours adapté à l'évolution de la consommation mondiale. On voit plus en plus de bouteilles sur des cépages et moins d'AOC pour convaincre à l'étranger, Hervé Remot.
Alors, d'une certaine manière, je serais plutôt en désaccord, dans le sens où, y compris dans le Nouveau Monde aujourd'hui, vous voyez un système d'appellation qui se met en place. Alors, c'est peut-être pas tout à fait avec les mêmes règles que l'on peut avoir en France, mais vous allez en Australie, vous avez dans la Barossa Valley, c'est maintenant la Barossa Valley qui monte en tant que région et en tant que terroir. Mmh. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, quand vous êtes en concurrence sur des marques et qu'il n'y a plus rien qui peut vous distinguer des autres, c'est là où le terroir qui est unique à une région va venir supplanter le reste. Donc je pense qu'en France, on est plutôt bien équipé. Alors peut-être que certains vont dire qu'on a trop de terroirs. Je ne pense pas qu'on ait trop de terroirs. Je pense que cette diversité, elle est très bien à actionner et à activer sur l'ensemble des marchés internationaux.
Est-ce que le fait que les grands groupes liés au vin sont de plus en plus mondialisés, c'est-à-dire présents sur tous les continents, ils se diversifient pour ne pas avoir tous leurs œufs dans le même panier, partager les risques, les aléas économiques, hein, comme ces taxes, climatiques aussi, on n'en a pas parlé, mais ça peut bouger. Est-ce que c'est pour... éviter et partager les risques qu'ils se diversifient de cette manière, Bernard Farge?
Ils se diversifient parce que il est nécessaire d'être présent sur tous les marchés, parce que la concurrence est féroce. La concurrence est féroce sur le marché intérieur. On a des grands groupes internationaux et donc on doit être fier de ça. On a une viticulture qui est positionnée sur l'ensemble des marchés, des négociants qui sont positionnés sur tous les marchés. Encore une fois, ces 12 milliards et demi de soldes positifs dans la balance commerciale, ça se fait pas tout seul. Mmh. Ça se fait aussi parce que les terroirs ne sont pas délocalisables. Si nous nous mettons sur le marché mondial, ben nous pourrons être substitués. Donc ces grands groupes qui investissent sur ces marchés-là ont raison d'investir sur ces marchés-là. C'est aussi la raison pour laquelle on arrive à ouvrir des marchés. Quand la Chine s'est ouverte au début des années 2010, c'est parce que des grands groupes, des grandes marques ont investi, parce que des grands crus ont pénétré ces marchés-là, que l'on a pu ensuite, avec des produits plus entrée de gamme, pénétrer ces marchés et créer de la richesse.
Ce mouvement de concentration, Hervé Remond, est-ce qu'il permet justement d'éviter ces aléas, tous ces aléas ?
D'une certaine manière, oui. Même si pour certains grands groupes, ça peut révéler un certain nombre de fragilités. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes un grand groupe et vous êtes présent aujourd'hui aux États-Unis et en Chine et en Angleterre, ça peut être compliqué, effectivement. Après, d'un certain côté, il ne faut pas oublier que le monde viticole, en tant que production, est un monde qui est relativement fragmenté. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière ces quelques grands groupes, vous avez une multitude de petits producteurs.
Oui, Bernard Farge.
Être présent sur... tous les marchés internationaux, normalement, nous préservent d'aléas d'une crise sur un pays. Il se trouve qu'en ce moment, les quatre premiers pays d'exportation des vins français sont, dans l'ordre ou le désordre, selon les régions viticoles françaises, les États-Unis, la Chine, Hong Kong et le Royaume-Uni. Vous voyez que sur ces quatre pays-là, il y en a un qui, pour l'instant, n'a pas posé de problème, mais pour lequel nous sommes en vraie incertitude, c'est le Royaume-Uni. États-Unis, Chine, Hong Kong sont aujourd'hui en grande difficulté en termes d'exportation pour des raisons de totale géopolitique ou de santé et de problèmes sanitaires. Et donc ce ne sont pas la qualité de nos exportateurs qui sont en jeu, ce n'est pas réellement le profil de nos produits qui est en jeu, même s'il faut y travailler et que toutes les régions y travaillent. Aujourd'hui, nous cumulons des graves difficultés qui ne nous appartiennent pas, pour lesquelles nous avons peu de leviers, sauf un. Le levier... et l'action du gouvernement français qui devrait être plus présent, plus efficace sur le sujet des taxes américaines.
Hervé Remond, pardon.
J'aimerais ajouter juste, ne serait-ce que sur les États-Unis, les grands groupes aujourd'hui ce sont aussi des fonds d'investissement qui sont à la recherche d'une rentabilité. Et ce qu'on peut noter aujourd'hui, c'est que par exemple le cannabis va peut-être supplanter le vin en matière de rentabilité, enfin c'est déjà le cas. Et donc, d'une manière ou d'une autre, c'est un autre risque aussi pour l'ensemble de la production d'avoir effectivement des investissements qui aillent sur un autre secteur.
Bernard Farge, en quelques secondes, puisque l'émission se termine, vous ne vous sentez pas assez soutenu par le gouvernement français dans cette
oui,
affaire ?
Nous ne sommes pas soutenus du tout depuis mi-octobre. Et nous attendons des réponses rapides et aux propositions que nous avons portées auprès du gouvernement français. Un, nous devons sortir de ces taxes-là. Les négociations doivent être puissantes et rapides pour sortir de cette impasse-là. Mais nous attendons des réponses du gouvernement.
Merci beaucoup Bernard Farge. Merci à vous Hervé Remond d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Arnold Lasseva à la coordination. Simon Carteret à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui Fabrice Violet. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
À personnalité exceptionnelle.